retour de Courchaine. À Kick 95.7 Saguenay.
15h38, je pense que je vais me lancer une maison d'édition, Alexandra.
OK.
Écoute, en 2019, j'ai lu un livre. Et le livre vient de gagner le prix littéraire France-Québec. C'est comme là, 2020, c'est la disparition des Lucioles, que j'ai pas terminé encore. Tu vois, c'est long, là.
Oui, ça te prend un an.
J'avais vraiment eu un coup de cœur pour Koukoum de l'auteur et journaliste Inou Michel Jean, qu'on peut voir d'ailleurs à titre de lecteur de nouvelles du côté de TVA, à un tel point que je l'ai passé à Roger Blackburn. J'ai dit, il faut que tu lises ça. Je dis, toi, tu sais, toi qui es un fan de la région, toi qui aimes parcourir, qui es un fan du lac Saint-Jean aussi, je pense que tout le monde dans la région devrait lire ça, ne serait-ce que pour en apprendre davantage sur notre région, mais aussi pour la plume tout à fait extraordinaire de Michel Jean, qui est en bout de ligne, qui n'en peut plus de ses compliments. Bonjour, Michel.
Salut, merci. C'est oui. Très gentil.
Ben, écoute, moi, je t'avais reçu, on t'a reçu à quelques reprises en studio, évidemment, ouais. Avant la pandémie, mais tu sais, à chaque fois, je reportais, puis là, j'ai dit, bon, ben là, je vais me plonger dans la lecture de celui-là, qui remporte le prix littéraire France-Québec. C'est quand même un prix relativement prestigieux, Michel.
Oui, quand même, c'est très prestigieux. Puis, moi, je suis comblé, je suis flatté parce que, tu sais, quand t'es, c'est un prix qui est donné à un auteur québécois, mais qui est décerné par des Français. Puis moi, souvent, quand j'écris des romans, les gens disent, ah, c'est bien toi, Michel, tu sais, les gens te connaissent de la TV, tes livres, tu sais, c'est parce que les gens te connaissent, etc. Mais en France, personne ne me connaît. J'ai aucune idée c'est qui Michel Jean. Alors, fait que les gens qui ont choisi le livre, c'est vraiment pour le texte. Ouais. Le texte a été choisi. Fait que pour moi, ça, c'était comme wow.
Oui. Parle-moi un petit peu de la nation Innu, parce que, tu sais, on a de la misère, des fois, nous, à se démêler les Montagnais, les Innu. Parle-nous un peu de cette présence-là au Saguenay-Lac-Saint-Jean de la nation Innu, là, dans
c'est l'histoire. C'est la même chose, les Montagnais, que les Innu. C'est juste que les Innu, eux autres, ça s'appelait eux-mêmes Innu, puis les missionnaires ont commencé, les Français ont commencé à les appeler les Montagnais. À un moment donné, on a repris le nom qu'on avait. Là. C'est comme si les Québécois s'appelaient Québécois, mais que les Anglais les appelaient les French.
Okay.
Et à un moment donné, on dirait, au Québec, on dirait, est-ce qu'on peut s'appeler les Québécois plutôt que les French, comme les Anglais nous disent? T'sais?
OK.
Fait que c'est les mêmes. C'est les Autochtones qui sont... c'est la nation autochtone qui, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, allait jusqu'au Labrador. Et à Machteuillache, ils sont dans le... Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a une communauté à Machteuillache, d'où ma famille est originaire. Mm-hmm. Puis avant la colonisation, ben, les gens vivaient un peu partout sur le territoire, comme moi, ma famille. Puis c'est un peu ce que je raconte dans le livre, c'est comment ça s'est fait, la sédentarisation forcée. Ma famille vivait, moi, aux passes dangereuses. Fait qu'on partait, mettons, à la fin du mois d'août. Le monde partait, puis on faisait le tour du lac. On remontait la rivière Péribonka jusqu'aux passes dangereuses, qui était à la tête du lac Péribonka. Là, ils se tentaient là pour le campement pour l'hiver. Puis c'était le campement principal. Puis les hommes allaient chasser jusque dans la toundra en haut, le caribou, ils revenaient. Puis au printemps, l'été, ils redescendaient. Où est maintenant Machteuillache? Puis c'était la période des retrouvailles. Tout le monde revenait, se retrouvait, les mariages, etc. Fait que la vie se faisait vraiment dans le territoire. Moi, ma grand-mère est née dans le territoire. Mm-hmm. Mais quelque part dans les années 40, là, à un moment donné, quand la coupe forestière a commencé, puis ils ont commencé à utiliser la rivière Péribonka pour la drave, les Inuits étaient forcés de rester à Pointe-Bleue à l'époque, qu'on appelle maintenant Machteuillache. Et depuis ce temps-là, on est à Machteuillache. Donc, dans le livre, on raconte cette histoire-là, qui est l'histoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est une des histoires du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui raconte comment tout ça s'est fait.
Oui, puis c'est intéressant aussi de voir qu'un garçon de Machteuillache, tu sais, voit que son histoire peut traverser l'océan, trouver un public, tu sais, en quelque sorte, tu deviens un peu un modèle pour ta communauté.
Ben moi, je suis content parce que, comment je dirais, je pense qu'un des problèmes pour les Autochtones, c'est qu'on n'a pas de présence dans l'espace public. C'est-à-dire, quand moi j'ai vu Natacha Canapé-Fontaine qui jouait dans Unité 9, moi j'ai pleuré dans mon salon parce que je me disais « Wow! » Tu sais, on a une comédienne autochtone qui joue un rôle d'un personnage autochtone. La petite fille qui est à Unamanchipu, sur la Côte-Nord, ou à Machteuillache, elle se dit qu'elle peut le faire aussi, ça se peut, parce qu'avant ça, on n'en avait jamais vu.
Ouais.
Puis pour Koukoum, c'est un peu la même chose, tu sais. Les jeunes qui disent que oui, on est capable d'écrire des histoires à partir de nos histoires, puis ça trouve un écho ailleurs. Puis là, ça trouve un écho en France. Le livre va être traduit en allemand. Je veux dire, tu sais, il y a un intérêt. Puis, il y a un intérêt très grand en Europe pour toutes ces questions-là qui touchent les Autochtones. Puis c'était pas le côté folklore où est-ce que là, on s'intéresse aux On voit les Autochtones qui débarquent à Wendake, à Québec, qui s'achètent les touristes français qui s'achètent des souvenirs.
Oui.
Toute la question de l'autodétermination des peuples, la position du Canada, qu'est-ce que fait le Canada, etc. Mm-hmm. Il y a un grand intérêt sur la scène internationale. Parce qu'on le sent moins ici, là. Moi, je le sens beaucoup avec mes livres.
Mais ça me touche vraiment ce que tu viens de raconter, la représentativité à la télévision, mm-hmm. puis ça me fait de la peine. Parce que, tu sais, moi, personnellement, nous ici, en tant que, mettons, de Québécois blancs, on n'a pas vécu, on n'a pas ce problème-là de se sentir inclus dans la télévision, c'est juste comme ça. Mais de voir qu'on a tellement encore du chemin à faire, tu sais, ça commence l'inclusion, mais il y en a encore tellement à faire pour mieux représenter toutes les communautés ici au Québec.
T'sais. Prenons les médias, on a travaillé dans les médias aussi, nous autres, ouais. là. Prenons les médias. Des journalistes à la télévision autochtone, il y en a juste un, c'est moi.
C'est vrai.
Il n'y en a aucun autre, ni à Radio-Canada, ni ailleurs.
Mon Dieu,
partout au Québec. Ouais. Dans la presse écrite, là, il y a Marie-Michel Séoui qui écrit dans Le Devoir, qui est une Wendat. À part de ça, il y a zéro. Nulle part. Mm. Quand tu es un jeune autochtone ou quand tu es un autochtone, tu ne vois nulle part. Aucun journaliste autochtones en TV à part moi.
Ouais.
Pas normal, on va se le dire.
Mais non.
Alors, c'est la même chose pour dans les arts, c'est la même chose dans l'espace public. Aucun politicien actuellement autochtone, ça n'existe pas.
Ouais.
Puis pire que ça, c'est que quand on regarde, mettons, les livres d'histoire qu'on apprend, nous, l'histoire du notre histoire nationale, ça commence en 1492 avec l'arrivée de Christophe Colomb, puis 1534 avec Jacques Cartier. Avant ça, il n'y a rien. C'est à peine si on parle de la Maison-Longue et tout ça.
Oui.
Mais pourtant, il y a des gens qui habitaient ici depuis 15 000 ans.
Oui.
Ces gens-là, leur histoire n'est pas dans les livres d'histoire.
Oui. Michel Jean, à titre de chef d'antenne à TVA, je pense que tu es probablement la meilleure personne à qui poser la question. Ça a été l'année de la COVID, mais ça a été aussi une grosse année pour les nations autochtones du Canada. Ça a commencé avec les blocus ferroviaires et avec le décès de Max Gros-Louis cette semaine. Il me semble qu'il y a eu beaucoup d'actualités en lien avec les nations autochtones en 2020.
Bien, les choses bougent. Puis moi, je sens une plus grande ouverture du public, d'abord, des Québécois, sur ces questions-là. C'est sûr que, tu sais, il y a encore des choses à changer. Puis il y a des affaires que les gens ne comprennent pas toutes, puis dans les deux communautés, d'ailleurs. Mais oui, les choses bougent. Je pense que Joyce Echaquan, ça a choqué les Québécois. Là, parce que, tu sais, moi, ça m'est arrivé souvent d'avoir des sujets comme ça dont on parlait, mais c'est le témoignage de la personne. Vous savez, quand les femmes, la police à Val-d'Or, là, il y a eu l'enquête sur la Sûreté du Québec et les femmes autochtones à Val-d'Or. Mm. Toutes les femmes autochtones racontaient la même histoire. Plusieurs ne se connaissaient pas entre elles. Puis, elles racontaient toutes la même histoire, mais c'était la parole d'une femme qui souvent était itinérante ou avait des problèmes de consommation versus la parole d'un policier. Il n'y a aucune accusation que les policiers de Val-d'Or qui étaient retenus. Puis, personne n'a jamais cru les femmes autochtones. Mm. Il y a plusieurs cas comme ça, mais dans le cas de Joyce Echaquan, si on avait eu juste une femme, on avait dit, ben voyons donc. On aurait eu de la difficulté à croire que les infirmières ont vraiment dit ça. Mais là, Joyce, elle s'est mise sur Facebook Live.
Ouais.
Ça, c'était un wake-up call pour tout le monde, moi, je pense.
Ouais.
Ça a beaucoup touché les Québécois.
Ouais.
Beaucoup de gens ont été sensibilisés à ça. Puis tant mieux. Je veux dire, ça sera moins le leg que Joyce va nous avoir dit.
Exact. Et toi, Michel, c'est un beau leg aussi, cet ouvrage-là, ce roman, Koukoum. Moi, je veux dire, avant, j'avais jamais lu de littérature Innu, provenant avec un auteur Innu. Mm-hmm. Moi, là, avant, là, tout ce que. En culture, là, moi, c'était Cashton. Là. Tu comprends? Là?
Oui.
C'était Abou Chaboué, là. Puis, that's it. Puis, je trouve que ça fait quand même un pont parce qu'on ne va pas vers la culture autochtone. C'est pas un naturel pour nous.
Oui.
Mais moi, ton livre, vraiment, là, m'a ouvert un peu. L'esprit, puis je t'en félicite, puis bravo pour
merci beaucoup. J'ai pas voulu faire un livre revendicateur où il y avait de la colère,
non,
où on faisait la morale aux Québécois. Il n'y a rien de ça là-dedans.
Non.
Ce que je voulais faire, en réalité, là, c'est quand tu es le lecteur, là, tu vas lire le livre, tu vas te mettre à la place des gens qui vivent ces situations-là. Puis quand tu te mets à la place des gens qui vivent ces situations-là, je suis pas en train d'essayer de te convaincre de quoi que ce soit. Tu comprends ce que les gens ont vécu, tu le ressens. Ça, c'est la grande force de la littérature, c'est que là, ça permet aux gens de « Ah, c'est ça, finalement, l'histoire.
Mm. »
Moi, c'est comme ça que j'écris. Puis, je fais pas la morale à personne, je fais pas de rien de ça, mais je raconte l'histoire, puis on la vit de l'intérieur, puis comme ça, ben C'est ouais. comme si on était dans un film, quelque part, avec les gens, on les suit. Là,
ouais. Hey, Michel Jean, en terminant, tant qu'à avoir un chef d'antenne, nous, ici, au 95.7, encore hier, encore aujourd'hui, toutes les fois qu'on fait des publications qui est Facebook sur la COVID, on se fait traiter de merdia. Je sais qu'à ouais. à TVA, vous avez été ciblé aussi. Ouais, ouais. Comment tu l'as vécu, toi? Parce que TVA a été très, très ciblé dans les attaques, entre autres, des complotistes.
Oui, bien, écoute, je veux dire... Moi, quand les gens, ça m'est arrivé souvent d'être sur le terrain même puis de me faire traiter comme ça. Les gens sont libres de croire ce qu'ils veulent. Il y a une affaire qui s'appelle les faits. Moi, je m'en tiens aux faits. Je m'en tiens aux scientifiques. Et les gens qui croient pas les faits, qui croient pas la science, qui croient une réalité alternative, qui vivent dans leur monde, ils ont le droit, là. Mais je peux juste remarquer que quand les gens insultent les gens puis tiennent ce genre de propos-là, ça montre quand même une étroitesse d'esprit de commencer à insulter les gens, puis de parler de merdia, etc. Tu peux être d'accord, pas d'accord. Tu es obligé d'être vulgaire, d'être insultant, d'être agressif, d'engueuler les gens dans la rue. Moi, je suis fait, on est dehors en direct, puis de traiter tous les noms. Puis tu regardes ça, tu sais, c'est comme à un moment donné, tu dis, écoute, je pense qu'à un moment donné, le bon sens va prévaloir. Mais il faut aussi que les autorités soient vraiment transparentes. À chaque fois qu'elles ne le sont pas, ça alimente.
Exact.
Les autorités ont une responsabilité d'être plus que transparentes, d'être 100% transparentes. Sinon, ça alimente ces gens-là. Puis moi, en même temps que je m'en tiens aux faits, ça ne me dérange pas de challenger des fois aussi les autorités. Je veux dire, on a fait un reportage, une entrevue l'autre fois à LCN sur justement, il y avait un gars, c'était un homme d'affaires, puis j'avais dit en entrevue, vous n'êtes pas un complotiste, mais vous trouvez que le gouvernement va trop loin. Puis il donnait des arguments qui se rapprochaient de ceux des complotistes, mais au moins, c'est basé sur une interprétation de la science. Puis on l'a fait en entrevue, puis j'ai pas essayé de le mettre en boîte. J'ai laissé s'expliquer. Et après ça, les gens à la maison, ils se font une idée. Et moi, j'ai tout le temps, ma job à moi, là, c'est pas de vous dire quoi penser. Ma job à moi, c'est de sortir les faits. C'est comme si moi, je rentre dans une pièce, là, il fait noir, c'est moi qui ouvre la lumière, puis là, la personne, elle se rend compte qu'il y a des coquerelles sur les murs. Alors, deux choses. L'une, débarrasse les coquerelles en les tuant ou en refermant la lumière. Je laisse les gens décider qu'est-ce qu'ils font. Moi, j'ouvre la lumière, puis après ça, c'est aux autres.
Michel Jean, ça a été un plaisir de converser encore cet après-midi. Je vous rappelle que Koukoum est disponible dans toutes les bonnes librairies chez Libre Expression. Et si on veut te regarder à TVA, as-tu un horaire? Il me semble qu'on te voit davantage la fin de semaine, Michel.
Oui, moi, j'anime TVA midi, TVA 18h le samedi et dimanche, plus les après-midi à LCN. Sinon, le reste, je fais des reportages sur le terrain. Voilà. La fin de semaine, si vous avez le goût d'être bien informé, on a la prétention d'essayer de faire ça du mieux qu'on peut. On est là toute la journée sur LCN TV.
Et on peut choisir entre un romancier ou une romancière à RDI. Et j'ai nommé Claudine Bourbonnais.
Ah ben oui, ça voilà. Aussi. Elle écrit très bien d'ailleurs, Claudine.
Tout à fait.
C'est une de mes anciennes collègues. Puis c'est vrai que c'est assez étrange quand tu y penses. Les deux seuls journalistes qui écrivent des romans, on était les deux chefs d'antenne la fin de semaine.
Exact. Merci beaucoup, Michel.
Hey, merci à vous autres. La pistolet à tout le monde au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, qui est ma région.
Bye-bye. Salut. Michel Jean, auteur et journaliste Inou, qui a remporté pour son roman Koukoum, qui est excellent, que j'ai lu. Qui d'ailleurs, je ne sais pas si c'est à cause de la pandémie, Roger Blackburn me l'a pardonné encore, je passe le message. donc, il a remporté le prix littéraire France-Québec. Écoutez, là, il y a à peu près 500 membres de cette fédération répartis dans une trentaine de comités de lecture qui ont participé au choix du lauréat. Tu regardes pas, pas été pigé d'un chapeau, là.
Non, c'est ça.
Et son œuvre a récolté 58% des votes pour remporter le premier prix.